Donc, comme l'a dit tout à l'heure Loïc, Béatrice, on peut blesser involontairement des personnes. Alors, je dis bien, nous avons de l'affection pour tous et de l'amour pour tous. Voilà. Donc, il est bien évident qu'il faut distinguer l'islam et les musulmans. Joseph Adel, vous avez le livre de Joseph Adel actuellement, Joseph Adel est en train de donner ce témoignage. Donc il est important, le musulman, nous croyons en sa bonne foi. Le musulman croit en Dieu, il essaye de faire de son mieux, il essaye d'adorer Dieu, il donne un témoignage, etc. Donc ça c'est très important. Mais il y a ensuite ce qu'on appelle l'islam. Et la difficulté, c'est que l'islam est un totalitarisme où politique et spirituel sont liés. Il n'y a pas de séparation du politique et du spirituel dans l'islam. Il n'y a pas de séparation. Donc, c'est pour ça que même actuellement, il y a des confusions entre certains disent « mais ça c'est l'islamisme, c'est pas l'islam ». Non, il faut dire, regardez le témoignage de Joseph Fadel. Et Joseph Fadel aime profondément les musulmans puisque c'est sa famille. Hein, il est devenu chrétien, etc. Donc vous voyez, c'est cela. Alors ensuite, il y a des courants différents dans la religion musulmane. Il y a des interprétations différentes. Alors c'est évident qu'il ne faut pas être simpliste. Alors ce que j'ai pu dire hier, qui a pu être peut-être mal interprété, ou ce matin, je ne me rappelle pas, le mot musulman signifie « soumis ». Le musulman, c'est celui qui se soumet. Il se soumet à Dieu. Il est soumis. Et vous avez pu remarquer, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, eh bien, les musulmans ne se révoltent pas. On est soumis. Voilà. Alors, ce que j'ai voulu dire hier soir, c'est pas une critique des musulmans, puisque nous devons avoir du respect par rapport à cette soumission, parce que justement, cette soumission doit nous émerveiller. Hein, c'est comme le peuple haïtien, après le grand tremblement de terre de l'année dernière, certains se sont scandalisés parce qu'ils ne se révoltaient pas contre Dieu. Au contraire, ils nous ont montré l'exemple d'un abandon dans l'épreuve. Voilà. Alors, cette soumission, nous devons la souligner, mais en même temps, ce que j'ai voulu dire, c'est que le fondement de la loi naturelle, c'est pas le seul volontarisme divin. Parce que ça, c'est toute la querelle du Moyen-Âge, des universaux, la querelle de ces courants de pensée entre l'intellectualisme et le volontarisme. La loi naturelle, elle nous vient de Dieu, mais le fondement, c'est la raison, c'est la vérité. Cette loi naturelle, elle a une cohérence interne, elle vient de Dieu qui est être, amour, vérité, et donc c'est important de le comprendre. C'est pas une loi qui est imposée par un arbitraire divin. Alors, la question qui m'était posée, c'est qu'il y a des musulmans qui pensent cela aujourd'hui. Mais tant mieux, je dis tant mieux, et prions pour que justement, dans ces dialogues interreligieux, eh bien, nous puissions de plus en plus aider des musulmans à découvrir cela, et qu'on avance vers la vérité tout entière. C'est ce qui fonde actuellement, d'ailleurs, le dialogue interreligieux, et c'est ce qui fonde le rassemblement d'assises que Benoît XVI a décidé pour le mois d'octobre. Donc Benoît XVI a décidé ce rassemblement d'assises pour dire « Nous croyons que quelqu'un qui prie Dieu pour la paix obtient des grâces pour le monde entier, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien. » Vous comprenez ? Donc, voilà, je voudrais qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Une autre question qui m'a été posée, avec à juste titre, c'est une question concernant la guerre. Donc on a plusieurs militaires parmi vous. Alors c'est vrai que j'ai dit, le commandement « tu ne tueras pas », je vais te transmettre ce que Jean-Paul lui a dit, ne souffre aucune exception. Donc le problème de la guerre juste. Y a-t-il une guerre juste? Bon, je ne vais pas rentrer dans les... il y a des militaires qui sont plus compétents que moi ici pour répondre. Jean-Paul II, vous avez vu combien il s'est engagé pour qu'on n'engage pas la guerre en Irak. Donc il s'est engagé avec une énergie. Hein, il a envoyé à George Bush un cardinal, il avait envoyé un autre cardinal à rencontrer Saddam Hussein, c'est le cardinal Cheveray. Et il a tout fait pour qu'on n'engage pas la guerre. Voilà. Alors, il est évident que la peine de mort et la guerre juste ne sont pas contre la loi naturelle. Voilà, puisque cela fait partie de la loi naturelle. Donc la peine de mort est dans l'Ancien Testament. La peine de mort a été acceptée jusqu'à la première mouture du catéchisme de l'Église catholique. Puisque dans la première mouture du catéchisme de l'Église catholique, la peine de mort était justifiée comme protection des innocents et comme, on peut dire, même possibilité pour un criminel de pouvoir se convertir. Hein, c'était tout comme ça jusqu'à la première édition du catéchisme de l'Église catholique. Jean-Paul II a fait changer cela pour dire que les circonstances font qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens que la peine de mort pour empêcher les coupables d'agir. Avec les meurtres qu'il y a eu au niveau du multirécidiviste, eh bien, certains se disent, est-ce que véritablement on est arrivé dans cette société où on a ces moyens? Les États-Unis pensent que, pour le moment, on garde la peine de mort. Donc, la peine de mort n'est pas contre la loi naturelle. Je le dis, la peine de mort n'est pas contre la loi naturelle. Mais l'Église aujourd'hui, dans ce domaine, a développé sa pensée pour dire que on doit à présent, dans le développement de l'humanité, trouver d'autres moyens que la peine de mort. Bon, alors c'est pas ma, je dis la pensée de l'Église. Hein. Voilà. Bon, maintenant la question des militaires. Je pense que peut-être que les militaires eux-mêmes peuvent répondre. Le militaire ne s'est pas fait militaire pour tuer. Ou alors, c'est qu'il y a une déviation de l'esprit de la chevalerie, de l'esprit militaire, qu'actuellement, d'ailleurs, on arrive à un tel professionnalisme qu'ensuite, on oublie tout cela. Donc, le militaire s'est engagé, non pas dans un métier, mais dans une mission, et il s'est engagé pour faire régner la justice. Il s'est engagé pour protéger les innocents. Il s'est engagé, voilà. Alors, la guerre juste était toujours considérée comme la protection des innocents. Alors, là aussi, moi, je pose la question au militaire. Si le militaire veut répondre, je préfère laisser la question de répondre pour dire, voilà, comment vous, en tant que militaire, eh bien, vous voyez la question, hein, parce que c'est vrai que... Bon, je prends un exemple. On prend une prise d'otage. Hein, quelqu'un nous prendrait un otage ici. Laisser le preneur d'otage nous tuer, c'est injuste. C'est contre la béatitude qui demande bienheureux les pacifiques, hein, c'est-à-dire mettre la paix là où elle n'existe pas. Donc, celui qui est militaire, celui qui a la charge de la sécurité dans notre territoire doit agir pour empêcher ce preneur d'otage de nous tuer. Voilà. Alors comment faire et comment arrivez-vous, vous, militaires, à mettre en concordance ce « tu ne tueras pas et tu défendras l'innocent ». Alors est-ce que le militaire vous répond? Parce que c'est plus ma compétence. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire il y a les personnes qui ont le devoir d'État peuvent répondre.
C'est une vraie question qui accompagne, à mon sens et pour mon service, toute la vie, en fait, que j'ai, j'ose dire, résolue un jour. En relisant ce qui est arrivé au général syrien Naaman sous l'ère du prophète Élisée. Je vais vous dire pourquoi. Donc vous voyez, Naaman, c'est le général syrien lépreux, et à qui on dit, écoute, on connaît une solution, et la solution, c'est Élisée qui lui dit d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Il croit pas trop au départ, et puis il le fait finalement en prenant en compte l'humiliation, et il en sort guéri. Et ce qui nous intéresse là sur la question, c'est le final, c'est que c'est pas la fin de l'histoire. C'est que ce général dans son service est le tuteur du roi quand celui-ci vient adorer son dieu. Et donc ce général syrien, Naaman, se retrouve guéri et donc se retrouve un homme de foi dans le dieu d'Élisée qui l'a guéri. Il vient pour repartir et il se retourne vers Élisée et lui demande « Mais comment ferais-je maintenant pour endosser mon service qui va consister à être le tuteur, un peu comme la béquille d'un roi qui adore un dieu en qui il ne croit plus désormais ?» Et la réponse d'Élisée est superbe. Il lui dit, en quelque sorte, conscient de la foi du général, qu'il était là encore en deçà d'une ligne rouge et qu'il n'y avait pas de problème. Parce que ce faisant dans son service, il restait en deçà de l'adoration de son roi, et en même temps, dans les conditions du moment, il assumait son service sans être en contradiction avec la foi qu'il venait d'éclore du fait de sa guérison de la lèpre. Et par rapport à la question « tu ne tueras pas » et le soldat occidental engagé dans la défense de son pays, ce qu'il y a, c'est qu'il est, il fait le don de sa vie pour les cas extrêmes où il faudrait mettre sa vie en balance pour la défense des siens qui sont la nation. Caractérisé immédiatement par les gens qu'on aime, sa famille, mais au-delà par la cité que l'on défend. Donc, on est d'abord des défenseurs. Nous sommes les acteurs de la légitime défense. Il n'existe pas la légitime attaque, et on sait, et pour se faire au mieux, eh bien, on s'entraîne et on sert pour être sûr que l'emploi de la force se ferait à bon escient et pour défendre la vie des siens, la vie de la cité. Et en cela, on est dans un agir. Moi, je suis allé très loin dans la réflexion, dans un agir jusqu'au moment où Saint-Martin, devant le front des troupes des légions, considère qu'il y a une strate supplémentaire dans la façon de servir. Et qui je m'engage non pas par les armes, mais à servir pour la légitime défense des âmes. Et là, il prend une autre voie, même si il décide d'aller au combat sans les armes devant ses légions, à la fois pour dire que ce n'est pas par manque de courage qu'il abandonne cette façon de servir, mais pour montrer aux siens, donc aux légionnaires romains, que ce n'est pas par peur non plus. Il y a au combat, il en viendra et on acceptera qu'il change d'itinéraire pour devenir le saint que l'on connaît.
Mais il faut quand même qu'il y ait des militaires qui demeurent militaires. Oui, alors j'ajouterais peut-être un point, si vous voulez prendre la parole, j'ajouterais quand même une chose pour défendre les militaires, c'est que le ciel est venu à l'aide de la France. Pour nous, quand les Anglais avaient envahi la France, on était exercé Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc n'avait pas d'armes. Et Jeanne d'Arc avait sur son étendard Jésus et Marie. Seulement, c'est ceux qui combattaient avec elle avaient des armes.
Merci. Oui, effectivement, c'est moi qui ai posé la question. Parce que le commandement négatif à ne pas transgresser me faisait réfléchir davantage à une question à laquelle j'ai déjà réfléchi depuis longtemps, heureusement, parce que c'est quand même le fondement de tout l'engagement d'un militaire, et j'ai plus de 30 ans de service, donc forcément, à un moment donné, il faut se poser des vraies questions, et il vaut mieux se les poser de bonne heure, mais ce qui n'empêche pas de se les poser tout au long de sa vie, parce que bien évidemment, une carrière n'est pas linéaire. On ne commence pas avec le même engagement quand lorsqu'on est jeune, et on ne vit pas tout au long de sa carrière avec la même idée. Elle évolue. Elle évolue au fur et à mesure de son âge, de sa maturité et de ses responsabilités. Alors, le terme de légitime défense n'est pas neutre. bien évidemment, parce que la légitime défense, c'est l'ultima ratio, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut plus faire autrement, on se défend. Il ne s'agit pas de tuer avant, il ne s'agit pas de tuer d'abord, il s'agit de tuer seulement lorsqu'on ne peut plus faire autrement. Et c'est la légitime défense. Et la guerre juste, c'est bien lorsqu'on a épuisé tous les moyens pour se défendre et qu'il n'y a plus que ce moyen-là. Là, ça devient la guerre juste, sous réserve que la raison pour laquelle on fait la guerre est juste également. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que toutes les guerres sont justes? Le problème du militaire va se situer dans l'engagement politique qu'il n'a pas, puisqu'il n'est que l'outil. Il va falloir qu'il fasse confiance au système politique qui va l'engager en tant qu'outil capable de tuer pour une guerre, pour un motif qui soit justifié, juste, légitime. Ça, ça peut être un vrai problème puisqu'on n'a pas d'objection de conscience. Mais dans l'acte lui-même, pour reprendre d'autres exemples, Jésus lui-même n'a pas renvoyé le légionnaire pour lui, en lui disant « Suis-moi ou quitte ton état de militaire ». Il l'a renvoyé, mais pour faire du bien tout en restant militaire. Donc on peut être militaire tout en étant chrétien et tout en défendant et essayant de respecter la loi naturelle.
Merci beaucoup pour. Parce qu'en même temps, vous voyez, ça permet de préciser les pensées. Ça permet de voir que nous sommes dans des situations difficiles et que justement, comme on l'a vu depuis hier soir, la conscience morale ne nous trace pas directement pour chaque cas. Il y a la synthèse, il y a la déduction des principes et puis après, il y a l'application au cas concret. Et là, bien, chacun est devant sa conscience et cette conscience doit être éclairée par l'Évangile, par la doctrine sociale de l'Église, par les principes de morale et par la prière. Voilà. Mais je comprends qu'on se trouve devant des cas de conscience, de même que le chirurgien se trouve devant des cas de conscience. Alors, par rapport à la vie d'Elisabetta Canori, ne pas faire de reproches à son mari est-il le meilleur moyen de construire son couple? Est-ce une voie de sanctification ou une sorte de paresse? Bon, alors on pourrait dire aussi que le mari peut faire des reproches à son épouse. Il peut y avoir une... voilà, c'est... Alors, je pense que le foyer ami pourrait répondre. Loïc pourrait répondre, peut-être. Avec l'expérience.
En fait, pour répondre, je vais demander à ce que ma femme sorte de la pièce. Non, en fait, et, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Dans les foyers amis, le père d'Orne nous a dit qu'il y a un principe dans le ménage qui est le jamais rien l'un sans l'autre. Et le jamais rien l'un sans l'autre, il implique effectivement une confiance qui découle de l'amour que l'on a l'un pour l'autre, mais qui n'exclut pas les reproches, les remarques, les attentes, l'expression des besoins que l'on a à satisfaire l'un et l'autre, mais qu'effectivement dans la vérité et dans la confiance, on est effectivement amené à se faire des commentaires, des remarques. Il nous est arrivé d'avoir des points de vue différents sur une décision à prendre par rapport à un enfant. Je veux dire, à ce moment-là, on peut déjà, un, en parler, deux, se mettre sous le regard de Dieu avec la prière, trois, là je vais faire une référence à certains articles du directoire qui ont tellement été rédigés avec limpidité par le père d'Orne, que c'est un outil qui nous permet également d'avoir le discernement nécessaire pour prendre la décision juste et bonne. Voilà, je m'arrêterai là.
Voilà, et surtout il faut s'exprimer. Surtout il faut s'exprimer, parce que oui, en psychologie, on parle de la, il ne faut pas de fusion. La fusion, c'est quand l'un ne dit rien et se laisse. Prendre dans sa personnalité, ne plus de personnalité. Non, il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on s'exprime. Et le père disait souvent, la plupart du temps, vous n'êtes pas d'accord au début. La plupart du temps, vous n'êtes pas d'accord. L'un a une idée, l'autre a l'autre idée. Et bien, il faut arriver au nous.
Il faut rappeler aussi quand même que...
Ah, vous voyez, on va demander à Loïc de sortir de la salle.
Moi, je parle de non, il faut simplement pour dire que dans les... dans les cordées, alors c'est les foyers amis, mais aussi dans les cordées, on a le petit livre, un petit carnet qu'on tient, etc. Et que dans le petit carnet, il y a ce qui s'appelle le gant de crin. Donc le gant de crin, ben voilà, tu t'entends se remettre les pendules à l'heure, etc., pas avoir peur de dire les choses. Et je ferai aussi un petit aparté, alors que pour lequel Père Bernard nous a beaucoup, beaucoup fait grandir en ménage, c'est qu'effectivement, depuis je ne sais pas combien d'années, on va dans la communauté, au début de mon mariage, je ne parlais pas. Et à chaque fois, Père Bernard me disait, est-ce que vous en avez parlé à Luc? Est-ce que vous avez demandé à Luc? Qu'est-ce que Luc en pense? Qu'est-ce que Luc dirait? Donc voilà, oui, c'est vrai, il faut beaucoup, beaucoup se parler. Ouais, ça nous a beaucoup aidé.
Maintenant, je ne peux plus en passer.
Bon, il y a d'autres questions qui sont pour le docteur Émile Gouveau, mais on les posera demain matin. Voilà. Alors, on va conclure par le témoignage que vous avez.